Notre vie en église au rythme de l'année liturgique. Réalisé avec Jean-Marie Dujardin et Armand Gall. Chers amis, nous retrouvons Jean-Marie Dujardin, laïc dominicain à Lille. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Armand.
Alors aujourd'hui, nous continuons notre cheminement sur le carême.
Oui, bien sûr, avec une méditation sur le quatrième dimanche de carême de l'année C. Ce quatrième dimanche de carême est appelé l'étaré. L-A-E-T-A-R-E. Il se situe à la mi-carême. L'étaré, mot latin, signifie « réjouissez-vous ». Cela parce que, bien que le temps du carême ne soit pas achevé, nous entrevoyons déjà le jour où nous allons célébrer la Pâque, grâce de notre salut réalisé par la victoire du Christ sur la mort. Mais il nous faut redoubler de persévérance. Notre marche se poursuit, et ce doit être dans la foi, la prière et un attachement totalement confiant au Seigneur. L'antienne d'ouverture de la messe du jour nous invite à cette réjouissance au livre d'Isaïe en 66:1-11. Je cite « Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. » Tandis que la prière qui suit nous fait demander encore et toujours la grâce de la foi. Là aussi je cite cette prière de l'Église. Dieu qui a réconcilié avec toi l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au devant des fêtes pascales qui approchent. Ce dimanche est également qualifié de dimanche d'Israël, car il rappelle l'arrivée du peuple hébreu en terre promise après 40 années d'errance au désert. D'où, sans doute, la durée du carême fixée à 40 jours par la liturgie de l'Église. Après le passage du Jourdain, ainsi que le précise le livre de Josué en 5:9-12, le Seigneur dit « Aujourd'hui, je vous ai enlevé l'humiliation subie en Égypte. » Alors les Israélites campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque, le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Et le récit nous rapporte qu'à partir de ce temps, la manne cessa de tomber, et que le peuple mangea les produits de cette terre nouvelle. Cette lecture met particulièrement en relief la fidélité de Dieu qui tient toujours ses promesses. Sa miséricorde pour l'homme qu'il a créé est sans limite. En dépit de tous les revirements, les reculades, les trahisons dont celui-ci est capable, Dieu a pris l'initiative de la réconciliation avec lui et lui donne de vivre sur cette terre ruisselante de lait et de miel, où son amour l'a conduit. Nous voyons bien ici la projection en image qui doit remplir notre cœur de joie et d'espérance. Cette terre promise pour nous, chrétiens, c'est le royaume de Dieu vers lequel nous nous acheminons en Église. Nous pouvons trouver dans le Nouveau Testament des échos de ce nouveau départ offert par Dieu à l'humanité, tout en observant que ce qui s'y produit a été annoncé et illustré par tout ce que nous rapporte l'Ancien Testament, comme si celui-ci constituait une préparation ou une répétition a priori du dessein formé par le Créateur pour sauver l'homme déchu. Et nous pouvons faire un parallèle avec ce que dit Jésus en Matthieu 5:1. Concernant l'ancienne loi. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, nous dit-il. Ce nouveau monde, en effet, offert aux Israélites sauvés de l'esclavage, nous le trouvons de la deuxième lecture, tirée de la seconde lettre de saint Paul aux Corinthiens, lequel insiste, à cette occasion, sur la nécessité pour nous de nous laisser réconcilier avec Dieu. J'en cite deux extraits. Premier extrait, « Frères, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. » Ce monde, c'est celui par lequel Jésus, par sa victoire sur la mort, nous offre la possibilité d'entrer, si toutefois nous voulons y adhérer. C'est pourquoi saint Paul poursuit un peu plus loin avec ce deuxième extrait. Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Voilà que se montre encore la perspective du passage, de l'ombre à la lumière, thème majeur de notre carême, omniprésent également dans chacune de nos célébrations eucharistiques, où nous faisons mémoire de notre salut réalisé par la croix du Christ. L'évangile du jour, en Saint-Luc 15-18, évoquant la parabole du Fils prodigue, nous est à tous très familier. Alors que les pharisiens critiquent Jésus au sujet de sa proximité avec les petits, entre guillemets, le maître propose cette parabole en vue de faire passer le message, encore et encore, de l'infinie miséricorde de Dieu. Message simple, si on veut bien le recevoir avec un cœur ouvert, mais qui a bien du mal à passer, finalement, parce que tellement dérangeant. Ce message, en effet, qui semble ne pas faire prévaloir les mérites de chacun, et c'est pour cela qu'il paraît dérangeant, mais ce message qui met en avant la bonté surprenante, extraordinaire, du Père qui ne peut accepter le malheur du Fils qui était perdu, lequel revient contrit et repentant. Nous avons tous entendu, en certaines circonstances de notre vie, que la plus grande souffrance pour un père ou une mère, c'est la perte d'un enfant. Dieu, toute miséricorde, dans sa proximité avec l'homme pécheur, qui veut à tout prix sauver, a voulu entrer dans cette souffrance-là. Chaque fois que nous tournons le dos à Dieu et à notre prochain, nous sommes des fils prodigues qui gaspillent la grâce de leur baptême parce que nous faisons taire en nous la voix de l'Esprit-Saint pour n'en faire qu'à notre tête, en laissant libre cours à notre égoïsme. Mais Dieu ne jette pas l'éponge pour autant. Il n'oublie pas son enfant, lui. Et il entre en veille patiente et infatigablement amoureuse. L'attente peut être longue et douloureuse, mais elle est attentionnée et vigilante. Seul un amour total et définitif peut l'expliquer. Nous voilà en vérité, face à l'amour renversant de notre Dieu, la seule force de création qui soit. Amour intrépide, opiniâtre, stupéfiant. Le fils de la parabole, pour y revenir, se retrouve seul, un jour, après avoir tout gâché, dans l'immédiateté et le plaisir éphémère. Voilà l'image du monde, basée sur la toute-puissance de l'argent, au mépris de la justice et de la solidarité qui devrait nous rassembler. Et vient le temps de la conversion de ce fils, qui s'en retourne vers le Père. Mais pourquoi faut-il que nous soyons accablés par la souffrance pour nous tourner vers Dieu et entendre enfin sa voix? Cette voix qui nous appelle à aimer, à croire, à être libres. et le père, en larmes, accueille le fils revenu, ordonne que l'on fasse grande fête et tente d'expliquer aux frères aînés scandalisés ce qu'au premier chef ne pouvait comprendre, bien sûr. Tente de lui faire comprendre qu'il fallait bien fêter le retour du cadet, lequel était perdu et retrouvé maintenant. Quelle belle image! Comme nous devrions désirer que nos divisions familiales si douloureuses se règlent de cette façon. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux, nous dit Jésus. Et en fin de compte, cette parabole du Fils prodigue pourrait aussi très bien s'appeler parabole du Père toute miséricorde. Seigneur, quelle est admirable ta miséricorde. Donne-nous la grâce de la désirer de tout notre cœur. Cette grâce, trésor inestimable, d'être les uns pour les autres, des hommes et des femmes d'humilité, de vérité, des êtres à l'esprit large, comme le sont ton amour et ta tendresse. Rends-nous perméables à ta parole, afin de nous en laisser habiter chaque jour de notre vie. Alors, notre marche terrestre nous conduira sans nul doute, sous le souffle de ton esprit, jusqu'à toi.
Merci beaucoup Jean-Marie. Je rappelle que vous êtes laïc dominicain à Lille et à très bientôt pour une nouvelle émission au rythme de l'année liturgique.
Avec plaisir Armand.
Notre vie en Église au rythme de l'année liturgique. Une émission qui a été réalisée par Jean-Marie Dujardin et Armand Gall.